Bonsoir, vous êtes sur Phare FM, 21h. On écoute Kelly Clarkson, Because of You, après le psaume 37, verset 5.
La Bible dit:
remets ton sort au Seigneur, mets ta confiance en lui, c'est lui qui agira.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Clarkson, Because of You.
20h minuit.
Cheminons ensemble
avec Guillaume.
Cheminons ensemble, Guillaume, avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. 21h04. Tout de suite, on va écouter Le Désert, Claude et Tim. Et ensuite, c'est Tommy Profit qui va nous interpréter Lament avec Sam Tinez. Et on aura Panorama Biblique avec Eric Denimal dans 7 minutes.
Que la chaleur de l'Orient vienne refermer mes plaies, que les terres des croyants me fassent trouver la paix. Les bédouins passent des heures attendant les dunes. Moi j'ai bu des liqueurs pour fuir ma solitude. Je vois dans leur ferveur que du ridicule. Force plus grande que moi m'anime et me déploie.
Distance makes it harder. Always breaking.
après la Bible pour les nuls, Phare FM présente, avec Éric Denimal, un survol intérieur des textes sacrés, Panorama biblique.
Le tout premier roi d'Israël, Saül, tente d'unifier le pays, de défendre ses frontières et de résister aux différents ennemis qui cherchent à piller et à occuper certaines régions. Il se heurte toujours au prophète Samuel. Samuel est l'homme de Dieu, son porte-parole. Il est donc prophète, mais aussi prêtre et sacrificateur. Il rappelle sans cesse l'autorité de l'Éternel, tandis que Saül essaie d'imposer la sienne et son pouvoir temporel. Il y a donc une querelle éternelle entre ces deux pouvoirs. En effet, Dieu veut qu'il y ait une distinction. Si le pouvoir politique est nécessaire pour diriger, pour gouverner, pour conduire, pour guider, il doit lui-même être soumis à un pouvoir supérieur qui est celui de Dieu. Dieu est au-dessus de tout et de tous. C'est ce que Jésus, bien plus tard, environ 1000 ans plus tard, osera dire à un Pilate qui ne comprendra pas vraiment « Tu n'aurais pas le pouvoir que tu as si mon Père ne te l'avait pas donné ». Ainsi, il y a toujours de la tension entre le roi et le prophète, entre Saül et Samuel. À plusieurs reprises, Saül, fort de sa légitimité politique, a usé de son pouvoir et a parfois oublié de laisser de la place à Samuel, donc au Dieu qu'il représente. Et Dieu n'aime pas la concurrence. On lui attribue même un sentiment très humain et pas le plus noble. C'est un Dieu jaloux. Ce Dieu jaloux va parler à Samuel et lui confier la chose suivante. « Je vais enlever la royauté à Saül. Ce ne sera ni lui ni sa descendance qui conduiront l'histoire d'Israël. Je me choisis un remplaçant et tu vas le oindre roi dès maintenant. » Oindre, ça veut dire apposer de l'huile sur la tête d'une personne élue et soudain revêtue d'un nouveau rôle, d'une nouvelle mission. Quelques années plus tôt, Samuel, dirigé par son Dieu, avait oint le jeune Saül pour en faire officiellement et rituellement le premier roi. Cet acte revêtait une dimension sacrée. Pour l'heure, pas de couronne, tout juste quelques gouttes d'huile. Bien que Samuel n'apprécie pas toujours Saül, il s'étonne des nouvelles directives de son Dieu et il y résiste. Ce n'est pas tant qu'il veuille protéger Saül et le maintenir sur le trône, mais oindre et bénir un nouveau roi alors qu'il y en a déjà un en place, c'est une rébellion, c'est un crime de lèse-majesté. Et Samuel sait que Saül peut être violent, vindicatif, expéditif. S'il apprend qu'on cherche à introniser un autre roi dans son dos, il considérera cela comme une trahison. Et on sait ce que le pouvoir fait des traîtres qui le menacent. Samuel hésite donc et il confie ses craintes. « Si je fais cela, Saül l'apprendra et il me tuera. » Dieu le rassure en disant que l'opération restera secrète. Il suffit d'aller dans la famille d'un certain Jessé et là, d'invoquer un rituel, un sacrifice ordinaire. Et à cette occasion, Dieu lui montrera qui sera le futur roi. Obéissant, Samuel se rend là où Dieu lui a dit d'aller. C'est un tout petit village éloigné qui, dès lors, entre dans l'histoire d'Israël, mais pas seulement. Ce village se nomme Bethléem.
Phare FM vous a présenté Panorama biblique avec Éric Denimal, à retrouver partout où vous écoutez vos podcasts.
Écoutez, c'est Phare FM. We'll be right back.
change, I can change, I can change. But I'm here in my mold, I am here in my mold. But I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mold, no, 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 no. Cause it's a bittersweet symphony, this life. Cause it's a bittersweet symphony, this life. Cause it's a bittersweet symphony, this life. Cause it's a bittersweet symphony, this life.
Gamper et Dadoni sur Phare FM tout de suite. Ils sont en français, priorité.
J'ai perdu trop de temps à courir contre la montre, par mes propres forces. Mais lorsque j'étais distant, tu es venu vers moi, offrant une seconde chance.
God is great, give him all the praise. Hallelujah, name above all names. Fire in his eyes, healing in his veins. Everywhere is glory on display. Take a look at those stars, you can name them all. Before his throne, every knee falls. The demons have to run, the angels have to praise. Even the wind and waves obey our God.
He's an awesome God.
He reigns from heaven.
for my shame. Sunday morning rose up from the grave. Take a look at those scars on his hands and feet. He saved our souls for eternity. Worthy is the Lamb, glory to the King. Come and wipe our tears away. No more fear, no more pain, no more sorrow, sin or shame. The King is coming back again. A reign of love that will never end. For everything you've done, and everything you do, and everything you are, I sing to you. My God, you're an awesome God, you're great in all you do. I'm to worship you, my God, you're an awesome God.
De l'amour.
Dans le Nouveau Testament, deux verbes décrivent le rôle des parents, enseigner et éduquer. L'enseignement se focalise sur le parler, l'avertissement verbal. L'éducation, elle, met l'accent sur le faire, mise en action. Ces deux fonctions doivent toujours aller de pair. Aujourd'hui, l'une des erreurs souvent commises par les parents est d'utiliser une seule de ces fonctions, laissant l'autre de côté. Si nous mettons davantage l'accent sur la parole, nous disons, en quelque sorte, parlons de ceci et nous croyons alors que si l'enfant comprend, il obéira. D'un autre côté, les parents concentrés sur l'action envoient le message suivant. Fais ce que je te demande, je t'expliquerai plus tard. Et souvent, le plus tard n'arrive jamais. Il vaudrait mieux apprendre à expliquer à la fois ce qui est attendu et les conséquences de la désobéissance. Les mots et les actions forment une combinaison gagnante.
C'était Les Langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Moody de Chicago en partenariat avec Phare FM. Wake up where the clouds are far behind.
trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly and the dream that you did to, oh why can't I, oh someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind, be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where
to see the sun rising. Some days I just need some reminding. All things come in your perfect timing. And I'm finding, yeah, as time goes by, Lord, I'm learning to trust you. With my whole heart, I'ma try not to rush you. You've been so good, I really do love you. How I love you. Be within your presence. Praise the Lord, my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name, yeah. Praise the Lord, my soul, and everyone around me, bless His holy name. Let's go, CC.
You see me through some hard.
My life was a mess. All my sin gone from the east to the west. You say I belong, so I know that I'm blessed.
From the
mon âme, oh my soul, à l'instant, vous êtes sur Phare FM, c'était Toby Mac avec CC Winans.
20h minuit,
cheminons ensemble
avec Guillaume.
Et l'écoute sur Phare FM, Guillaume avec vous, poursuivre en musique. Avant, on s'y retrouve, Osier et Colpierre avec Rêver à nouveau.
Se lève, que dans ta nuit reviennent les étoiles, qu'en ce moment les hivers et les tempêtes tournent dans ta tête. Pour toi, dans la forêt, je veux allumer l'incendie, mettre le feu pour éclairer ta nuit, trouver la flamme qui réchauffera ton âme et séchera tes larmes. En toi, je vois que l'été monte, que tu chasseras tes démons. Que demain la lumière s'élève, je te promets que ta nuit s'achève. Et même si l'homme est sombre et t'a fait traverser l'ombre, je veux être la voix qui saura te montrer tout ce qui brille en toi. Ah, six pieds sous l'eau, si tu veux rêver à nouveau, je veux être un phare dans tes marées, te guider là où renaît l'été. Je sais que la tempête te désarme et que des bouts de toi partent dans tes larmes, que ces pages de toi que tu confies se sont noyées dans l'oubli. Pour toi, je veux naviguer dans cet océan salé, tenter d'y repêcher ces pages oubliées, tenter de recoller le livre pour qu'un nouveau chapitre s'écrive. Je te promets pas une vie sans faille, y'aura des plaies et des batailles, mais mon plus beau défi c'est toi, je t'ai donné ma vie pour ça. Et même si l'homme est sombre et t'a fait traverser l'ombre, je veux être la voix qui saura te montrer tout ce qui brille en toi. Ah, six pieds sous l'eau, si tu veux rêver à nouveau, je veux être un phare dans tes marées, te guider là où renaît l'été. Et même si la route est longue, et peu importe si tu tombes, je volerai tes idées noires, je rallumerai ton regard. Et même si t'as de l'orage, et si ton cœur faisait naufrage, je serai là à tes côtés, je resterai. Et même si l'homme est sombre et t'a fait traverser l'ombre,
but while in the Avec Benjamin Peter Schmidt.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. On est heureux d'être avec vous sur cette émission. Vous connaissez le principe, on s'y retrouve. Et des fois, on s'y perd. On discute de plein de choses, mais ce soir, on va parler du thème de la sexualité dans le couple. Maintenant, je parle de la sexualité dans le cadre du couple chrétien, c'est-à-dire du mariage. Dans le cadre du mariage, on va avoir tout de suite Eric et Rachel Dufour qui vont venir avec nous. S'ils peuvent se téléporter dans cette télé. Bonjour à vous deux, Eric et Rachel. Bon, ben, je pense que vous arrivez à définir qui est Eric et qui est Rachel. On est vraiment ravis de vous avoir. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être en deux mots vous présenter? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et pourquoi on vous a invité dans cette émission?
Oui, alors ça fait 30 ans qu'on est mariés, parents de 5 enfants, dont 3 sont mariés aussi. 30 ans de ministère, que l'on a commencé en Alsace d'ailleurs, avec joie. Et puis on a été pasteur d'église, et en fait on est devenu au cours de ce périple thérapeute, et on est spécialisé dans l'aide apportée à toute personne qui est dans un ministère, que ce soit célibataire ou en couple.
Une fois qu'on est marié, eh bien nous, on fait face à des gens qui ont des difficultés dans leur sexualité, dans le cadre du couple. Donc voilà, on s'est spécialisé un petit peu là-dedans.
Alors, j'aimerais vous poser, pourquoi je voulais aborder ce sujet? Parce qu'il y a tellement de couples, en fait, qui sont en souffrance sur ce sujet-là, qui est quand même un sujet extrêmement important. Alors, ma question, elle est simple, c'est, mais quelles sont les choses que vous retrouvez le plus dans vos entretiens si, effectivement, y a des difficultés? Vous, qu'est-ce que vous retrouvez le plus comme difficulté?
Souvent, en fait, la société n'est plus immorale, mais amorale. C'est-à-dire que les gens qui grandissent dans cette société ne savent pas où est le bien du mal. Et en fait, on vit la sexualité quand on n'est pas chrétien. On la vit, et même parfois, malheureusement, quand on est chrétien aussi, on la vit en dehors du cadre divin.
Donc, on a le sexe en dehors du mariage, tout ce qui est pornographie et qui va mentir sur ce qui est vraiment la sexualité. Et on a aussi le puritanisme qui disait il faut pas y toucher parce que ce que je disais, la loi morale, c'est mal. Donc on voit des situations, des sexualités qui sont tournées off. Avant le mariage, moi je me tiens, et puis on bride ça à fond et ça se débride jamais en fait.
Est-ce que ça c'est quelque chose, alors peut-être je vais peut-être plus m'adresser papa en tant que pasteur, parce que c'est vrai qu'en tant que pasteur on nous confie beaucoup de choses. Il y a des sujets comme ça qu'on retrouve. Est-ce que toi c'est quelque chose, tu te retrouves dans ce que Eric, Rachel disent aussi, pas tu te retrouves Non, on va éviter. Là, les sous-entendus, les
misinterprétations,
ça va être vraiment, vraiment rapide et prompte. Mais ma question, c'est est-ce que voilà, toi, en tant que pasteur, vis-à-vis de ce qu'il partage là, qu'est-ce que toi, tu dis ?
Bah, sont les schémas qu'on retrouve en règle générale, avec également de plus en plus, à mon sens, de perversion aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on entend des choses qu'on ne pensait même pas possibles. Il y a jusqu'au stade où ça commence à faire peur. C'est-à-dire que on n'est même plus dans une, on parle même plus de sexualité. J'allais dire dans le cadre normal entre un homme et une femme, mais on voit des personnes pour aller plus loin dans l'expérience, parce que c'est toujours la même chose. Il y a un moment donné où on arrive, c'est comme la drogue. Arriver à ce stade-là, ça suffit plus. Alors on va plus loin, et puis on voit des gens qui tombent même dans la criminalité.
Ah
et
oui,
moi j'ai été et nous sommes confrontés à cela.
Mais est-ce que là je vais prendre par exemple allez un couple qui aime Dieu, qui vivent des difficultés liées à ça, qui souvent entraînent sur d'autres difficultés aussi, ou qui sont liées à d'autres difficultés que juste d'ordre sexuel. Mais tu vois là, Eric Rachel parlait du puritanisme. Je trouve que c'est une notion assez intéressante à discuter. C'est quoi ton point de vue là-dessus ?
Bien, nous on était nos racines. Sont liés à un mouvement très puritain quand même, et où la sexualité était réservée uniquement au fait de faire des enfants.
Ce qui peut expliquer du coup les difficultés de la sexualité dans le cadre d'un couple à juste avoir
oui,
des relations.
Ce qui peut aussi expliquer les chutes chez l'homme ou chez la femme, enfin bref, tous les débordements possibles. Et puis ce que je rencontre, alors c'est comme vous l'avez dit, je rencontre quand même aussi des plus souvent des femmes, pas toujours, en règle générale ce sont des femmes. On parle beaucoup de violence aujourd'hui,
mais
de la violence dans la sexualité.
Ouais.
Et une violence qui est vraiment liée à la pornographie. La pornographie engendre de la violence, et tout d'un coup, l'autre n'est même plus le vis-à-vis, il n'est plus qu'un objet.
Alors justement, c'était Eric et Rachel, ce n'était pas la question que je m'étais notée juste après. Celle avec le verset sur 1 Corinthiens, j'aimerais vraiment qu'on l'aborde, mais on va enchaîner sur la question de la pornographie qui était celle, justement la suivante, puisque chez les jeunes, c'est quelque chose qui est récurrent aujourd'hui, c'est plus juste chez les jeunes. Maintenant, dans le cadre du couple, je suppose que forcément vous le retrouvez vous aussi. J'ai envie de dire, allez, ne partons pas juste d'un constat, on est conscient que ça arrive. Maintenant, quel conseil donnez-vous à quelqu'un qui est emprisonné dedans et qui en souffre dans le cadre du mariage aussi? Quel conseil pourriez-vous donner?
Alors déjà, il faut, comme tu l'as dit, hein, c'est pas simplement. Évidemment, c'est un problème de jeunes dans la mesure où l'accessibilité à la pornographie est devenue gigantesque. Mais j'ai 55 ans, j'ai été exposé à la pornographie quand j'en avais 11 dans un contexte non chrétien. Puis malheureusement, ça existe depuis toujours quasiment. Hein. Mmh. Et par contre, quand on a été prisonnier de cela étant très jeune. Plus jeune on y a été exposé, plus l'ancrage de la pornographie sur notre système de récompense-réconfort va être lourd. Quelqu'un qui a été exposé après ses 20 ans pourra s'en débarrasser plus facilement. Quelqu'un qui est exposé depuis très longtemps, il va y avoir toutes sortes de constructions émotionnelles qui sont faites depuis des années, il va être difficile de s'en séparer. Donc la réponse, ne bataillez pas seul. Entourez-vous. Et moi j'encourage les églises et votre église particulièrement à créer des groupes de parole d'hommes, où on va cesser de se mentir, parce que malheureusement, la pornographie, elle expose la quasi-totalité des jeunes hommes aujourd'hui dans le monde, et des jeunes femmes, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont quasiment autant exposées et presque autant consommatrices de pornographie que les hommes.
Ouais.
Ce qui, normalement, la libido de l'homme passant par ses yeux, c'était lui la victime numéro un. Mais aujourd'hui, comme disait Samuel, il y a une telle chute morale du monde entier qu'en fait, les femmes aussi sont addictes à la pornographie. Donc, première chose, arriver à en parler. Et que les hommes qui en parlent prennent un risque avec leur épouse, elle a le droit de savoir. Et mesdames, je vais te laisser la parole. En fait, c'est quelque chose qui est très blessant, qui peut être extrêmement dommageable, mais il faut comprendre qu'en fait, souvent, le combat n'est pas à cause de vous, madame, mais c'est quelque chose de plus profond qui est complètement indépendant de vous.
Ça, c'est très douloureux pour l'épouse, hein, quand elle apprend ou elle découvre, selon la façon avec laquelle elle aura découvert. Il faut se donner un petit sas pour avoir le temps de digérer, d'être en colère, etc., puis de pardonner. Je leur dis tout le temps, t'as le droit d'avoir envie de lui arracher les yeux, mais ne le fais pas, ne le fais pas, parce que le combat, il est à l'extérieur. Ça, c'est une clé. Le combat, il est à l'extérieur. Et c'est vrai, ça peut devenir une addiction, ça devient très vite une addiction, surtout maintenant avec les méthodes modernes, les 3D, etc. Donc, ça se traite comme une addiction, en fait. Il va falloir décrocher, faire du off. On coupe la source qui nourrit, donc téléphone portable, internet, on coupe, on met off, mais on met du on aussi, on va remplacer par quelque chose qui va venir répondre à ses besoins de récompense et de réconfort. Il y a tout un protocole à mettre en place, ça se traite comme une addiction et il faut reconstruire la confiance dans le couple, réapprendre une sexualité, parce que c'est vrai ce que Samuel disait, le mensonge de la pornographie, c'est de faire croire que quand elle dit non, elle dit oui, etc., et on pourra enchaîner sur le verset après. Ben non, c'est pas du tout comme ça, vraiment c'est une moquerie, ce que le diable fait souvent. La pornographie, c'est une moquerie de la sexualité, c'est du sexe.
La meilleure sexualité, en fait, elle se passe entre deux personnes qui sont les seuls partenaires l'un avec l'autre. Donc, l'épanouissement de la sexualité ne se vit, en fait, que dans la sécurité d'une alliance entre un homme et une femme qui n'ont pas de partenaires multiples. Donc, ce qu'on nous vend de « il faut découvrir avec plein de personnes avant de savoir comment on sera heureux sexuellement », c'est un mensonge abominable. C'est l'inverse de ce que la sexualité est censée donner.
C'est une course au shot hormonal et qui ne suffit pas, exactement comme une addiction.
C'est ça.
Le premier suffit, on dit oh, extraordinaire, puis après ça suffit plus, il en faut un plus fort, et donc plus violent, plus violent, plus violent.
C'est ça. Mais est-ce que vous n'avez pas peur avec, j'entends totalement votre conseil, mais avec cette approche-là, vous avez par exemple, allez, prenons l'exemple d'un homme ou d'un des deux qui a un problème lié à la pornographie, qui est dans le cadre marié, qui est même chrétien, qui est dans une addiction, mais, et que l'autre, ben voilà, vous parliez de faut mettre off les canaux et mettre on de nouveaux canaux, de réconfort, récompense, etc., que l'autre se sente comme juste le médicament. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas juste c'est pour faire cet échange, mais juste c'est le médicament pour éviter qu'il retombe. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut venir aussi.
C'est pour ça que ça prend du temps, en fait. Tout le temps de réapprendre le off, c'est pas « Bon, aujourd'hui, tu m'as avoué qu'il y avait un problème de pornographie, t'arrêtes de regarder la pornographie et on se déchaîne dans la chambre à coucher. » Non, pas du tout. Il y a tout un chemin de guérison. Il va falloir que le conjoint guérisse aussi, hein, parce qu'il y a un vrai chemin du pardon qui va devoir se faire avant qu'il puisse reconstruire une sexualité. C'est comme les addictions à la nourriture. On peut pas vivre sans nourriture. Dans un couple marié, on ne peut pas vivre sans sexualité active. Si on veut être protégé spirituellement, etc. C'est la même chose. C'est toujours très délicat, ces addictions-là, puisqu'elles sont addictes. Elles nous lient à un produit besoin dont on a vraiment besoin.
Ouais.
C'est pas, hop, et maintenant, on passe à autre chose. Non, ça prend du temps. Il va falloir de la guérison des deux côtés avant de réinstaller une sexualité qui sera saine.
C'est pour ça qu'on encourage vraiment à rechercher de l'aide et qu'il puisse y avoir des groupes de parole, parce que pour se battre efficacement et être victorieux ou victorieuse contre cela, c'est mieux si l'on est avec d'autres personnes. Pas pour se dire, oh, c'est pas grave, ça m'est arrivé aussi hier, c'est pas grave, on va y arriver. Non, avoir vraiment un protocole de combat contre cela, comme un petit peu les groupes de parole des alcooliques anonymes. Hein. C'est vraiment ça l'idée, et qu'on cesse d'en faire un tabou pour pouvoir mettre ce problème dans la lumière, combattre ensemble et voir des victoires. Et quand je vois quelqu'un être débarrassé de ça et que ça tient, eh bien en fait, ça m'encourage à croire pour moi-même que je peux aussi avoir cette victoire.
Le dragon de la pornographie, quand on met la lumière sur lui, devient un lézard. Et puis après, il peut c'est disparaître beau. Et sortir de la vie.
En plus de ça, vous êtes poète, mais c'est magnifique.
Il est 6h du matin, c'est ça.
Alors, on va enchaîner justement avec ce verset qui revient souvent sur ce sujet-là. 1 Corinthiens 7, versets 4 à 5. Papa. Non, je vais te le lire alors.
Que l'homme.
Alors, la femme n'a pas autorité sur ça. C'est ce que tu voulais dire ?
Oui.
Ouais, c'est facile, arrête. Non, il a dit deux mots.
Tu vois, oui, je voulais dire bien sûr.
C'est comme les bons. J'avais le réponse. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ma question, c'est que signifie ce verset? Et est-ce que des fois, certains ne l'utilisent pas pour fortement influencer un acte et presque comme un outil de, je dirais pour le coup, de manipulation, quoi. Comment on peut le comprendre sainement, ce verset?
Alors, c'est sûr qu'il va s'appliquer dans le cadre d'un couple chrétien qui s'entend et qui est harmonieux. En fait, il nous rappelle que je suis dans le don de moi vers l'autre et que dans la relation sexuelle, l'objectif, c'est pas que moi j'ai du plaisir. Ma responsabilité, c'est d'en donner à mon conjoint. Et d'ailleurs, c'est aux hommes de prendre soin d'abord du plaisir de leur femme. Si on relit le texte de Paul, on voit bien que c'est à l'homme d'abord de commencer ce processus. Puis la femme va ensuite prendre soin de son mari. C'est dans le sens du don et du don de soi vers l'autre. On prend soin de l'autre pour donner du plaisir à l'autre et à lui apporter réconfort, récompense.
La deuxième partie souligne la protection nécessaire au niveau spirituel. On en a déjà parlé. Et attention, il y a un point très important ici aussi. Le viol entre époux est condamné par la loi et par Dieu aussi. Hein. Mmh. On n'est pas dans « je te force » grâce à coup de verset. Ça, c'est un. Je voudrais pas être devant Dieu le jour où ceux qui auront fait ça devront rendre compte de ça. Tordre un verset de la Bible pour forcer l'autre. On n'est pas dans « je force l'autre ». On est dans « je choisis le don ». C'est différent. Si je choisis de faire ce cadeau et de développer notre sexualité, etc., et d'apprendre ensemble et d'être à l'écoute de l'autre, bien, on est dans un cercle vertueux.
Retrouvez cette émission en intégralité sur farfm.com/on-s'y-retrouve.
This feels like sleeping with the lights on. Oh, the memories stay. They loop their lines on endless replay. Oh, I'm sleeping where I fall. If I can sleep it off. Cause I wake where I wanna if I wake at all. Cause here the lines are blurred. Reality deferred. And we're chasing down tomorrow. Oh. The dark, babe, we just gotta ride on. Oh, don't let the lies through. They'll trick your mind and turn your heart to stone. Forget the wars we fight, forget the tears you cry. Cause we'll go when we're gonna, but that won't be tonight. Cause here the edges fade between the light and the shade, and we're chasing down forever. Oh.
Il va être 22h, vous êtes sur Phare FM, la radio autrement. Bonsoir à tous.
How was I to know? It's a crazy thing. I showed you my hand, and you still let me win. And who was I to say? This
this was meant to be. The road that was broken brought us together. And I know you could fall for a thousand kings and hearts that would give you a diamond ring. When I fall, you see the best in me. The Joker and the Queen.
I've been played before. If you hadn't guessed. So I kept my cards close to my foolproof vest. But you called my bluff and saw through all my tells. And then you went all together, and I know you think that what makes a king is gold, a palace and diamond rings. When I fold, you see the best in me, the joy. Give you a